Jéthro, sacrificateur de Madian, donc c'est une région d'Ismaël, des descendants d'Ismaël, on dirait arabe aujourd'hui, au père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Donc Jéthro est prêtre de l'Éternel. Dans d'autres textes, on le voit dans l'Exode, c'est un sacrificateur. Alors que déjà il y a eu dans le passé avec Abraham, Melchisédek qui était prêtre de l'Éternel, alors que l'ordre du sacerdoce n'est pas encore fondé, il n'est pas fondé puisque c'est après avec Aaron que va commencer le sacerdoce lévitique. Et pratiquement, ça veut dire qu'il y a un sacerdoce éternel dans lequel Dieu se reconnaît et qui ne vient pas de la main de l'homme. Jéthro, qui est descendant d'Ismaël, et qui reconnaît la grandeur des bienfaits de Dieu à l'égard des descendants d'Isaac. Regardez déjà la tournure des événements pour le futur. Vous savez, je l'ai déjà prêché, que l'Irak, la Syrie, l'Égypte seraient des adorateurs de Dieu, de l'Éternel, de Jésus, à Jérusalem, avec Israël. Il y a plusieurs passages qui l'indiquent bien. Il y a donc un mouvement, contrairement à ce que Satan fait pour le moment, il y a un mouvement dans les cœurs qui amène les enfants d'Ismaël vers le Christ. C'est évident que le chrétien devrait avoir la pensée de Dieu et pas la pensée du monde. Il devrait avoir la vision de Dieu pour les événements qui vont arriver. Et ce qu'il voit aujourd'hui, ce que Satan fait, ne devrait même pas l'impressionner, ne devrait pas lui laisser croire que Satan a raison, que Satan va réussir. Satan a déjà échoué pour Dieu. Et pour tout enfant de Dieu qui connaît l'autorité de Dieu. Jéthro, verset 2, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger, en Égypte ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Là, c'est évident que ce qui va se passer est extrêmement important pour l'avenir du peuple de Dieu. Cet homme-là est assoiffé de vérité, cet homme-là aime beaucoup Moïse, il a un grand respect pour Moïse parce que Dieu a choisi Moïse. Dans Exode, au chapitre 1, 2, 3, on voit que Dieu est apparu à Moïse et l'a conduit malgré lui à des œuvres pour délivrer Israël. Mais l'œuvre de Dieu semble compromise par le péché de Moïse. Moïse a répudié sa femme. Dans Deutéronome, au chapitre 18 ou 20, il faut aller voir, Moïse a créé une règle pour pouvoir remballer la femme en faisant une lettre. Ce qui est toujours utilisé dans beaucoup de cœurs d'hommes et de femmes aujourd'hui et qui est institué dans l'islam qui peut se faire. Dans l'islam officiellement. Pratiquement, Séphora est conduite par son papa, avec les deux fils, tout près de Moïse. Pour Jéthro, il n'y a pas eu de répudiation, il n'y a pas de divorce, ça n'existe pas. Pour Jéthro, ça n'existe pas. Il vient devant Moïse avec sa fille, Séphora, et avec ses deux fils. Voilà déjà le témoignage. L'œuvre de Moïse est compromise humainement parce qu'il est dans le péché. Et si vous allez dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 1, vous verrez qu'il a pris une Éthiopienne, une femme noire, d'où le fait qu'il y a des Juifs noirs aujourd'hui, les Félacha, hein, qui est en Érythrée, Somalie, Inde, et comment quel pays ? Éthiopie, évidemment. Et beaucoup sont revenus en... Si vous allez une fois en Israël, vous verrez qu'il y a beaucoup de Juifs noirs. Ainsi en est-il. Ça s'est passé comme ça. Et Moïse a ouvert la porte à quelque chose de très dur dans le peuple d'Israël. C'est l'idée du divorce, de la répudiation. Vous savez que quand les disciples sont arrivés tout près de Jésus, ils lui ont dit « Est-il permis de répudier notre femme pour un motif quelconque ?» Dans un autre cas, c'est la foule, les intellectuels religieux. Ils posent la même question. Jésus dit « Non, il n'en était pas comme ça au commencement. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis la répudiation. » Mais c'est aussi la dureté du cœur de Moïse, évidemment. L'œuvre de Dieu semble compromise humainement par ce péché. Qu'est-ce qu'un homme qui fait ça peut amener de bon dans un peuple s'il montre le mauvais exemple? Aujourd'hui encore, dans tous les leaders politiques, les leaders de nos sociétés, regardez comment ils se comportent. C'est vite fait de balancer, d'avoir des aventures, et encore, on retrouve ça dans les revues, dans les films, pour amplifier, je dirais, le problème, pour inviter les gens à penser de la même façon. Mais Dieu a assisté divinement Moïse. Il a envoyé un homme de foi, un homme solide, un homme fidèle, dirigé par Dieu, qui est un intercesseur. Et jusqu'au verset 12, vous allez voir ce que j'ai trop dit. Regardez au verset 6. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Donc, lui, il n'habite pas, hein. C'est toujours ta femme. Hein. Moïse sortit aussi. Moïse sortit au devant de son beau-père et se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé. Ils entrèrent dans la tente de Moïse. Donc, il y a beaucoup d'estime, il y a beaucoup d'amour. Évidemment, une relation qui se veut positive entre Jéthro et Moïse. Parce que Dieu le veut comme ça. Tous les deux vont regarder à l'œil de Dieu, au plan de Dieu. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrées. Il faut dire qu'à partir du moment où Moïse a vu l'ange de l'Éternel dans le buisson et qu'il a commencé à travailler à la délivrance d'Israël, un peu malgré lui, jusqu'à ce jour-là, il y a 40 ans. Donc, il y a de quoi faire. Quand Jéthro vient le revoir, il y avait déjà un bout de temps qu'il ne s'était pas vu. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Donc, un descendant d'Ismaël qui se réjouit du bien que Dieu fait un des descendants d'Isaac. Ça, il faut lire ça entre les lignes. Parce que c'est pour l'avenir, ça. C'est comme tel. Il se passera quelque chose dans ce Moyen-Orient qui sera un défi. Dieu relèvera son défi. Et Jéthro dit, et là déjà il l'a relevé, Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. Regardez bien, hein, en présence de Dieu. C'est pas un bricoleur, Jéthro, hein. C'est pas un bricoleur. Espérons que nous ne le sommes pas, nous. En présence de Dieu. Tout se passe en présence de Dieu et il rend gloire à Dieu de ce que ce peuple a été délivré, de ce que Moïse a une responsabilité et que Dieu lui a donné. Lui, Moïse, un pécheur comme les autres. Donc, l'œuvre de Dieu est d'abord dirigée par Dieu, elle est assistée divinement par Dieu, même si le responsable est un pécheur. Quand on tombe dans le travers de dire un responsable ne doit pas avoir de péché et il doit être parfait, évidemment on ne peut pas encourager au péché. Mais quand on tombe là-dedans, on tombe dans un travers qu'on a, une secte, c'est un mouvement hérétique qui s'est développé, le donatisme, dans le nord de l'Afrique. Ça a provoqué de gros problèmes d'intolérance, de déchirement dans les églises. C'est ça qui a affaibli les églises chrétiennes du nord de l'Afrique. Et quand l'islam est arrivé, il a trouvé des églises fort abîmées. Et le donatisme a été combattu par Rome, par saint Augustin, malheureusement. Augustin, qui a donné son aval à Rome, au pape et à toutes les armées pour aller saccager les églises du nord de l'Afrique, des milliers d'églises. Ce peuple a été abîmé et le peuple était toujours croyant chez les Berbères, les Kabyles, etc. Quand l'islam est arrivé, la reine des Kabyles a gagné deux batailles contre les musulmans qui arrivaient, qui faisaient des razzias, des invasions, surtout la nuit. Et elle a perdu la troisième bataille et du jour au lendemain, zoom, Afrique du Nord, on coupe la tête et on se soumet. Hein? On se soumet. Mais l'affaiblissement du peuple chrétien est venu des travers intérieurs du peuple chrétien, est venu des divisions du peuple chrétien. Toujours. Toujours, il en est ainsi. Encore maintenant, pour l'Europe, c'est la même chose maintenant. Mais la justice a débordé sur le peuple. La justice, nous allons voir le problème du règlement des conflits, de la justice dans ce peuple, du verset 13 au verset 18. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Il faut gérer tous les conflits, tous les différends dans un peuple. Ce n'est pas facile. Parce que ce sont tous des gens qui se querellent, qui se marchent sur les pieds, qui s'envient les uns les autres. Et il y en a toujours pour faire des niches aux autres. Et dans tous les domaines. Hein. Que ce soit tant du domaine sexuel que financier, matériel, social, familiaux. Et il faut régler tout ça. Il suffit que vous les alliez voir dans Lévitique, chapitre 16 à 21, vous verrez que l'enfer moral, l'enfer spirituel qui se passe, et comment Moïse a dû régler tout ça. Alors, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Regardez cet homme. Cet homme de Dieu va donner une clé de bonne gestion au peuple juif. Et c'est quelqu'un qui n'est pas d'origine juive. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil, que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, donc des affaires d'argent. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Quelle est la destination de ce peuple? Quand on voit dans Lévitique, c'est la sainteté la destination du peuple. C'est la sainteté. Bien sûr, si on voit le Deutéronome, la destination, et dans Exode aussi, c'est le peuple de Canaan, c'est le pays de Canaan, c'est la terre d'Israël. Mais qu'on peut être sur la terre d'Israël, dans le péché, ça ne sert à rien. Puisque Dieu, s'ils sont dans le péché, les chassera de la terre d'Israël. C'est ce qui est arrivé avec Nebuchadnezzar et Salmanazar. C'est une chérie. Donc pratiquement, il faut d'abord la sainteté. C'est prioritaire avant le pays, le territoire. La destination est donc double, et je dirais même triple, il y a le ciel après. Le ciel. La vie éternelle. Alors Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, les établit, chef du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles, il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père, Jéthro, s'en alla dans son pays. Parti Jéthro, parti avec ses bras et les enfants. Les enfants vont revenir, mais ce qu'il y a, regardez. Je vous rappelle qu'en Nombre 12, chapitre 12, verset 1, une Éthiopienne est dans la vie de notre Moïse. La justice était débordée parce qu'il voulait l'amener lui-même, il voulait avoir tout pouvoir, il s'épuisait et il épuisait le peuple. Il voulait avoir tout pouvoir, il était charnel et pas spirituel. Et la justice allait échouer. L'exercice de la justice dans un territoire, dans un pays, est extrêmement important. Et regardez à quel point, en France, partout en Europe, la justice traîne à régler les dossiers, à régler les affaires. De plus en plus, il y a des problèmes, de moins en moins de magistrats, parce qu'ils ont une vie d'enfer, ils sont même menacés physiquement dans leur vie privée, ou leurs femmes et leurs enfants, et ils sont saturés de travail et de tracas, et ils sont tout de suite critiqués par la presse, ils sont tout de suite critiqués par les hommes politiques, tout de suite mis en vedette à la télévision et dans les journaux s'ils font un pas de travers. Et donc pratiquement, le gros problème de notre société, c'est que la justice va être de moins en moins réglée et réglable. Il en était comme ça à l'époque déjà de Moïse. Donc la justice est débordée, elle est épuisée, elle est épuisante. Alors, au verset 19, regardez bien. « Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil, que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, porte les affaires devant Dieu. » Quelle est la clé de la justice? C'est la référence directe à Dieu. Voilà, vous avez, pour aujourd'hui, dans notre société, nous avons la réponse à un problème dans lequel on s'enlise de plus en plus. Vous avez vu ce que ça a duré, M. Dutroux, en Belgique, à la honte de tous. Et on a dépensé plus de 230 millions d'euros à cette affaire véreuse. On s'est arrangé de cacher beaucoup de gens qui allaient violer ces petites. Regardez aujourd'hui toutes les affaires d'argent qui en Belgique, en région wallonne, avec des mandataires socialistes, quasiment tous, il n'y en a pas un qui va en prison. Tous, ils paradent devant la caméra de la télévision. Et ils s'en vont tous avec un gros pactole de l'argent. Et ils ont plongé dans des affaires véreuses. Au point que maintenant, il y a des sondages, il n'y aura plus que 6% de la population qui va voter pour eux. Ces dirigeants qui se disaient les amis du peuple l'ont bien mangé, le peuple, ont bien étranglé le peuple. Hein? Et pratiquement, il est évident que c'est à Dieu qu'appartient la justice. Le verset 19 nous montre bien que celui qui dirige doit porter les affaires devant Dieu. Et il doit être l'interprète de la pensée de Dieu. Et rien d'autre. Parce que seul Dieu est juste, les amis. Seul Dieu est juste. Naturellement, ça donne des excès. Quand 21 siècles plus tard, un arabe de la Mecque a lu ça. Lui, il a pris tous les règlements de Lévitique, du Deutéronome, il a rédigé son Coran, et puis, alors là, si tu n'obéis pas, t'es lapidé. Si tu voles dans la main droite, ta main est coupée. J'avais des voisins ici, ingénieurs au sud du Yémen, trois hommes avaient violé une fille, et eux, ils ont vu ça. monsieur et madame m'ont raconté ça, il y a eu un jugement, ça a duré 10 minutes. On les a liés, pieds et mains liés, on les a mis sur une benne de camion, on les a amenés au milieu de la place publique, on a benné comme si on benne du sable. Et puis on a châtré les 3 hommes, et ils sont morts là. Ça, c'est la méthode radicale qui coupe toute envie aux autres de le refaire. Et encore, ça se produit quand même. Quand une femme blanche ou n'importe quelle femme va se trimballer au Pakistan en Inde toute seule, courait toujours, si elle reste intacte. Alors, pratiquement, les amis, il y a des méthodes radicales qui ont été prêchées et prônées par des religions. Mais en général, elles sont inspirées dès le départ des règlements de Moïse. Et ce qui se passe, c'est que souvent dans le peuple juif, on n'appliquait pas vraiment à fond les règlements de Moïse. Et puis il est venu des pasteurs, des prophètes qui ont prêché la compassion, le pardon, est venu Jésus. Parce que, à travers des règles conduites excessivement durement, eh bien, on pouvait y déceler la haine, la méchanceté à l'égard de l'homme. On pouvait y déceler le manque de pardon et l'hypocrisie de ceux qui avaient appliqué. À la guerre de 14-18, il y avait, un peu avant la guerre de 14-18, il y avait une actrice de théâtre, peut-être de cinéma si ça existait un petit peu, Mata Hari. En fait, c'était une femme très belle qui avait du succès auprès des hommes politiques et qui est une très grande artiste et qui se présentait à Paris, à Montmartre, etc., dans tous les spectacles, qui avait un pouvoir de séduction sur les hommes. Et tous les juges, les hommes politiques, se la payaient. Puis les Allemands ont trouvé que c'était intéressant. Elle faisait des dettes. Elle vivait de façon épouvantable. Elle faisait des dettes. Les Allemands ont trouvé l'art d'amener des hommes tout près d'elle, rusés, et qui lui ont dit « on va payer tes dettes ». Mais tu vas nous servir d'espionne. Chaque fois que tu es sur l'oreiller avec quelqu'un, tu vas essayer de savoir de tel général, de tel homme politique, ce qui se passe en France, ce qui se passe quand, etc. Donc elle était devenue une espionne pour régler ses dettes. Et donc, quand elle a été jugée par des généraux français et des hommes politiques, au tribunal militaire, elle a été fusillée. Hein, pour faire l'exemple, un an ou deux avant la guerre de 14. Ceux qui l'ont condamné, c'était les juges qui avaient couché avec. Ok ? C'est pour dire que la justice des hommes, c'est ça. C'est ça. Mais en attendant, moi je ne me permets pas de dire il ne faut pas de justice. Je ne me permets pas de me moquer de la justice. Parce que s'il n'y en a pas, ça sera encore 1000 fois pire. Et Dieu a dit qu'il fallait respecter les magistrats. C'est Dieu qui les jugera, c'est pas moi. Mais en tout cas, je vous raconte cette histoire avec Mata Hari, pour vous dire à quel point cette femme, quand elle a été fusillée, elle a été fusillée par tous ceux qui l'avaient souillée. C'est un peu le cas de la femme adultère qu'on présente auprès de Jésus. Ils viennent pour... On devrait, d'après la loi de Moïse, la lapider. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et alors, silence, silence, ils s'en allèrent tous, à commencer par les plus vieux. Et évidemment, Jésus lui a dit, t'ont-ils condamné? Non. Eh bien, moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Vous voyez, le message de Dieu, la vraie justice, c'est d'amener l'homme à se repentir de son péché. La vraie justice, c'est de lui donner sa chance de se repentir, c'est de l'inviter à changer de chemin. La vraie justice de Dieu, c'est de dire, tu as encore un certain temps pour te décider pour le bon chemin. Mais nous, chrétiens, n'ayons pas l'illusion que nous sommes en ordre avec Dieu. Mettons en ordre ce qui n'est pas en ordre. Pendant qu'il est encore temps. Et que Dieu nous fasse voir ce qu'il faut régler. Ne regardons pas seulement les prostituées et les juges du monde. Nous sommes encore vivants jusqu'à tel ou tel jour, pour régler les choses que Dieu nous met sous le nez quand on lit la Bible et qu'on la médite. Si bien sûr on ne peut pas les voir, on se rangera par ne pas lire la Bible, évidemment. Au placard, elle ne dérange plus personne. mais le jugement sera quand même là. Le jugement de Dieu sera là. En attendant, ce que je reviens à dire, c'est que dans ce peuple, il y a toute une structure de justice qui a été mise, référée à Dieu, confiée à des hommes intègres, dirigée par Dieu. Ça, ça a été une immense qualité d'Israël. Bien sûr, le péché s'en est mêlé. Regardons chapitre 20. Sur quoi est référée cette justice ? Eh bien, cette justice est référée sur des commandements que Dieu a donnés. Chapitre 20 d'Exode, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ce qu'avait dit Jéthro. C'est en réponse à ce que Jéthro a dit pour ouvrir les yeux à tout ce peuple. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Vous savez, en Égypte, d'où il venait, il y avait des divinités à l'infini, avec des beaux temples, des belles statues, des beaux vêtements. Depuis plusieurs années, je vais chercher des vêtements à droite et gauche, non plus autant qu'avant, parce que c'était énorme avant. Tanguy et moi, on en a trimballé énormément, et stocké, et puis remis dehors pour les camions. Mais c'est fini, ça, on est trop fatigué. Mais il y a quand même des personnes à qui, quand elles me proposent des vêtements, je vais les chercher. Mon but, c'est, rusé comme le serpent, doux comme la colombe, c'est d'aller dans ces maisons pour d'autres motifs que les vêtements. Et depuis plusieurs années, ici, pas loin, à 5-6 km, une dame d'origine française, mariée à un Égyptien, m'a toujours donné des beaux vêtements. J'ai toujours prié pour qu'il n'y ait pas un sort sur ces vêtements, qu'il n'y ait pas quelque chose. Parce que dans la maison, il y a des grandes statues de divinité, des dieux égyptiens, partout. Je les voyais quand j'ouvrais la porte. Je dis, Seigneur, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il est grand temps que maintenant, je rentre dans cette maison, que j'annonce ton salut. J'ai été patient, j'ai été gentil avec elle, elle a certainement très peur de moi, mais en même temps, elle trouve des prétextes pour que je vienne, ce sont les vêtements. Alors, quel est l'aimant qui va attirer l'autre aimant? Vous savez, deux aimants, si on les retourne, ils s'opposent, ils se rechassent. Mais à un moment donné, vous les mettez dans la bonne position, ils s'attirent. Mais à un moment donné, c'est ça qu'il faut savoir juger, parfois quand on évangélise. Dans quelle position je suis maintenant, Seigneur, avec toi, pour annoncer ce qui était impossible peut-être l'année d'avant. Mais il ne faut jamais mettre quelqu'un de côté parce qu'on n'est pas arrivé à l'évangéliser, à lui annoncer le Seigneur. Il faut le mettre en prière et dans la volonté de Dieu. Et pratiquement, parce que l'évangélisation ne nous appartient pas. L'annonce de l'évangile ne nous appartient pas, c'est l'œuvre de Christ. Alors pratiquement, j'avais beaucoup prié pour ça cette semaine, et puis j'y suis allé, et elle m'a ouvert, il y avait, ah oui, il y a les linges là et tout ça, oui. Elle appelle son fils, qui a de lourds problèmes psychiques et tout ça, mais psychiques à cause de l'occultisme qu'elle a pratiqué. Un autre fils est mort déjà. Il y a des problèmes dus à l'occultisme, dus à ses relations avec les ténèbres, évidemment. Elle ne le sait pas, en plus. Comment lui ouvrir les yeux? Seul Dieu peut le faire. Alors, pratiquement, ce qui se passe, je dis, écoutez, je vais rentrer, laissez votre fils. Je le voyais manger, il venait de rentrer du travail. Alors, venez, rentrez. Et puis, pour finir, vous voulez un verre d'eau? Et puis, il me dit, je m'assieds, ou limonade, je ne sais plus, c'est pas d'importance. Et pratiquement, elle s'était fait accueillante. Et ça, là, j'ai vu qu'elle répondait à l'attente, à la prière que j'avais faite. Et c'était plus deux mondes étrangers qui se repoussent. Et pratiquement, je lui dis, vous avez l'air fatigué, ça n'a pas l'air d'aller, madame. Alors je lui demande son prénom, c'est Marguerite. Et puis elle me dit, j'ai beaucoup d'arthrose dans la tête, j'ai beaucoup de mal. Alors, l'arthrose, ça peut être dû à l'humidité en dessous du sol, ça peut être dû à des chocs, à l'accident, à la fatigue, mais ça peut être dû à autre chose, de l'occultisme. Alors, pratiquement, ce qui se passe, à des conflits de relations avec des personnes du voisinage, l'arthrose, c'est, il y a toujours une signification spirituelle, morale, à nos maladies. Mais il faut beaucoup de prudence pour trouver laquelle. De discernement. Alors, pratiquement, je lui dis, écoutez, Je pense qu'il faudrait se tourner vers le Seigneur. Elle dit, oui, je souffre beaucoup, mais je sais que toutes mes souffrances ne seront jamais égales à celles que Jésus a souffert. Et je lui réponds, pour vous. Elle m'avait tendu la perche pour que, paf, je mette le clou, le marteau sur le clou. Et j'ai dit, Seigneur, ça va vite avec toi. Il faut savoir attendre le bon moment. Et alors, on a pu parler et prier. Et pratiquement, je vais y retourner. Hein, je suis parti à la retraite des missionnaires, mais je vais y retourner. C'est sûr que je vais régulièrement penser à elle et prier. Pourquoi ? Parce qu'elle est sous domination. Et que pendant le temps qu'elle soit réellement au Seigneur, elle va se faire bombarder, attaquer. Hein ? La pauvre. Vous voyez bien qu'à un moment donné, ces statues égyptiennes, ça mérite un coup de masse. Hein. Le jour qu'elle est chrétienne, moi je sors tout ça, elle craque, badaboum, au nom de Jésus. Hein. Je prends la remorque, je prends la masse devant elle. Et je vais taper ça à la déchetterie, mais ça coûtait un os, hein, tous ces trucs-là. Alors, pratiquement, je demanderai certainement peut-être un autre chrétien de venir avec moi ce jour-là. Parce que il ne faut pas être trop audacieux. Des fois, il y a des retours de manivelle. Satan n'est pas toujours tendre. Mais regardez bien, ce peuple vient d'Égypte, où il a connu tout ça. Il s'est intéressé à tout ça. Vous savez bien que le peuple juif s'intéresse à tout. Les gens intelligents et curieux, et désobéissants à Dieu. Malgré qu'ils ont la révélation et la parole de Dieu, ils sont désobéissants à l'os. Jacob, s'il hanche, et là, la hanche là, il boite, Jacob, Israël, ça veut dire fort contre Dieu. Et à cause de son esprit d'opposition, tu boiteras toujours de là. Tout ce qui vient des Juifs est comme ça. C'est pour ça qu'ils ont refusé Jésus. Mais pourtant, ils seront. Après, les boiteux marcheront droit. Donc les Juifs. Regardons. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Adieu les statues, adieu les bas-reliefs. Adieu tout ce qu'on a vu en Égypte, comme madame ici. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ici, à 5 km, on a ça. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération de ceux qui me haïssent. Vous savez, la franc-maçonnerie a été fondée par des pasteurs écossais. Hein? Et on a repris tous les arts divinatoires égyptiens. Oui. Le grand symbole, c'est la pyramide, avec l'œil au-dessus. Et tout le reste, tout le reste. Donc l'iniquité est interdite. Donc Dieu punit jusqu'à trois ou quatre générations ceux qui m'aiment, ceux qui pratiquent ces iniquités, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Les amis, même si vous êtes baptisés ou pas, ou baptisés je ne sais pas où, même si vous venez au culte, apprenez à ne pas vous moquer de Dieu. Apprenez à être sérieux. Toute attitude véreuse envers Dieu, même dans le secret de votre cœur, secret de votre chambre, secret, quelque chose qui n'est pas fait pour l'honneur de Dieu, Dieu vous en rendra compte. Vous ne prendrez pas son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Avez-vous compris, chers amis, où est votre chemin? Avez-vous compris? Vous ne voulez-vous pas comprendre? 46 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui est contenu, se reposer le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Tout ça, ça concerne le respect de Dieu. Ensuite, le respect des autres et de soi-même. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas. Donc, ça veut dire aussi, tu n'avorteras pas. Tu ne commettras point d'adultère. Jésus a dit, même dans ton cœur, dans ton âme vis-à-vis de quelqu'un. Tu ne déroberas pas, donc voler. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, dans l'autre sens son mari, ni son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni autre, aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Regardez bien ce qui se passe. Moi, j'aurais été content de voir ça. Parce que j'aurais été tellement bouleversé, je dis, Seigneur, ok, j'obéis. Mais regardez ce qui se passe. Il dira, Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. On se débine. La maladie du peuple de Dieu, c'est de se débiner et de refuser la rencontre avec Dieu. La vraie maladie du peuple de Dieu, c'est de se débiner et de refuser d'être en face de lui. Ça, j'en suis sûr, à l'expérience comme pasteur. Et c'est ma plus grande souffrance, mes amis. Ma plus grande souffrance. Mais je mourrai avec, mais je pense que je dois le dire. Le but de Dieu, au chapitre 19, verset 4. Le but de Dieu. Le v'là, bien sûr, puisque le peuple ne veut plus monter à la montagne. Hein? Ah ah. Chapitre 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous voyez? Vous voyez? Le peuple n'est plus là. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Ils vont faire un veau d'or. Ils vont se divertir. Ils vont faire la débauche et tout le reste. Qu'est-ce que fait le peuple de Dieu aujourd'hui en Europe? Les amis, si vous ne voulez pas que vos enfants se débauchent comme le peuple au pied du Sinaï avec le veau d'or, vous ne devez pas leur mettre un téléphone portable dans la main à 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Ils ne doivent pas aller coucher le téléphone portable, ils doivent le déposer tout près de vous avant d'aller dormir. Qu'est-ce qu'ils vont faire 2-3 heures sur le téléphone portable? Qu'est-ce qu'ils vont aller voir? Qu'est-ce qu'ils sont avec des copains et copines sur les trottoirs, là, 4-5, à regarder? Vous seriez bien étonné de ce qu'ils regardent. Le veau d'or est là. Le peuple qui se corrompt est là. Et Dieu ne serait pas en colère? Enseignez la colère de Dieu à vos enfants, parce qu'autrement, ça sera dur pour eux un jour. Ils resteront dans les tribulations avec l'Antichrist. Faute d'avoir vu en face leur péché et leur iniquité, auxquels ils ont attaché tout leur intérêt et leur plaisir. Regardez bien. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Au verset 4, je vous ai amené vers moi. Le problème, ce n'est pas que Dieu a sorti les Juifs, les Hébreux de l'Égypte, leur a donné les 10 commandements, c'est qu'il les a amenés vers moi. Quand j'ai cru en Jésus, quand j'ai lu la Bible, Dieu m'a amené vers moi, vers lui. Le but de Dieu, c'est d'être en face de lui. Le but de toute démarche de Dieu, c'est d'être à lui, en communion avec lui, en face de lui. Donc, quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours, refuse d'être en face de Dieu, d'être dans sa présence, au boulot, au lit, partout, il l'offense. Il l'offense, les amis. dans le chapitre 19, verset 4, « Je vous ai amené vers moi. » Un peu plus loin, regardez bien, verset 5. Et ça se résume pour tout chrétien encore aujourd'hui, ça. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Qu'est-ce qu'on trouve dans la première épître de Pierre ? Une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes une maison de prière. Chacun de nous est en pierre vivante de cette maison. Alors les amis, c'est le même langage. Qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 5 ? Quand les anges et les archanges louent le Christ sur son trône, à côté du Père. Gloire à l'agneau immolé, qui par son sang a racheté des hommes de toute tribu, de toute race, de toute langue, de toute nation, pour en faire un peuple de rois, de prêtres, de prophètes. Alors, c'est pas ça? Dieu ne change pas d'avis, comme nous on change de chemise. Il a toujours les mêmes buts, Dieu. Il veut faire un royaume d'intercesseurs, un royaume d'adorateurs. Et il veut en faire une nation sainte. Est-ce que vous avez voulu ça cette semaine-ci? Est-ce que vous avez ça en point de mire pour vous et moi? Moi, je dis que je l'ai voulu. Quand je maçonnais la cheminée au grenier, quand je maçonnais le truc-là, j'ai eu commandeur à attraper mal la gorge. J'ai voulu. Quand j'aide mes filles à faire des boulots ici pour que l'école ouvre, je l'ai voulu. Quand je vais au jardin et que je fais des légumes, 10 fois, 100 fois plus qu'il faut, pour que d'autres en aient, quand ils n'en ont pas, je l'ai voulu. Je veux faire partie de cette nation sainte et d'intercesseurs. De cette nation sainte qui partage. Nation sainte qui a de l'égard pour les autres. Qui apporte à l'autre le respect et la considération. Et je ne regarde pas si les hommes alentour le veulent. Dieu m'a demandé, le veux-tu ? Je répondis oui. Chacun de nous est amené devant Dieu pour lui répondre. Veux-tu être saint ? Veux-tu m'appartenir ? Veux-tu que je sois ton roi, ton juge ? Dieu est mon juge ce jour. Je sais bien beaucoup de choses que je ne devrais pas faire, vous pensez. Et je le demande de m'en débarrasser. Vous devez appartenir. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, verset 5. Car toute la terre est à moi. Pas un seul des souliers qui traînent dans la maison, un vieux balai, une serpillière, une tasse ne m'appartient. C'est à Christ, c'est à Dieu que ça appartient. Il faut changer de point de vue complètement, les amis. Avant qu'il arrive, avant qu'il soit là, vous ne le tromperez pas. Je ne le tromperai pas. Le but de l'homme, au chapitre 19, verset 8. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas devant Dieu lui dire eux-mêmes ? Ils disent à Moïse, va le dire à Dieu. On sait déjà que c'est foutu d'avance. Ils vont désobéir. Quand je sors de chez quelqu'un et que quelqu'un me dit « Vous prierez pour moi ?» Peut-être la première fois ça va, deux fois après je dis « Mais demandez-le vous-même à Dieu. » Il a créé toutes les oreilles et tous les yeux. Il vous voit, il vous entend. Demandez-lui vous-même. Si la personne continue à me dire « Demandez à Dieu, priez pour moi. » C'est ça. Je sais que Dieu était important, mais moi, je veux une porte de sortie parce que moi, ça m'intéresse d'aller par là. Alors, ils ont eu droit à ce qu'on appelle, vous savez, aujourd'hui, on est très spécialisé dans les grands spectacles, hein, dans les très grands spectacles, parce qu'on veut copier Dieu, avec des feux d'artifice et des trucs électroniques, vous voyez, les grands concerts. Eh bien, ils ont eu droit, eux. Il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de feux d'artifice. Hein, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 11, « Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. » Alors qu'est-ce qui se passe? Crac, badaboum. Verset 16. Il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur une montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi de fureur. Vous pouvez voir, hein, tous ces grands spectacles qu'on voit maintenant sont orchestrés. Ils ressentent pas ça. Et ils sont là comme ça, avec la musique. Mais Dieu n'est pas là. Quelqu'un d'autre est là. Pour qu'il n'aille pas vers Dieu. Nous sommes dans un temps de préparation à l'opposition, au simulacre, pour que Satan vienne diriger le monde. Il aura bientôt tous les moyens, parce qu'il a... les gens s'y préparent. Alors regardez, verset 16, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, la trompette, le chauffard, le cornes de bélier, c'est l'appel à la repentance. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. L'appel à la repentance ne leur suffit pas, ils ont peur de Dieu. Moi je trouve que quand moi ce qui m'a frappé, le jour que j'ai rencontré vraiment le Seigneur dans ma vie, je me suis rendu compte que j'étais appelé à la repentance. J'étais rien. Que Dieu était grand, qu'il était saint. J'étais appelé à la sainteté. Appelé à l'aimer et à le suivre. Je n'ai pas été épouvanté. J'ai été bouleversé, mais pas épouvanté. Épouvanté, ça veut dire, je me barre. Parce que je veux rester ce que je suis. Je ne veux pas ce Dieu-là qui va me prendre en main. Non, qu'on soit bouleversé, impressionné et pris en main par Dieu parce qu'on se laisse prendre, alors là c'est la vraie conversion. Ben ils ne veulent pas se laisser convertir. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent en bas de la montagne. Vous vous rendez compte que Moïse, qui voyait Dieu face à face, qui lui parlait comme un ami, il doit amener ce troupeau de rebelles, hein, et il est persévérant quand même dans son ministère. Verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Appel à la repentance en face de Dieu. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Alors, les amis, nous continuerons la fois prochaine à regarder ce que Dieu voulait dans l'Épître aux Hébreux, etc. Il y a beaucoup d'autres choses à comprendre. Dieu ne cherche pas à terrifier l'homme. Le vrai Dieu aime l'homme. Si l'homme est terrifié, parce qu'il ne veut pas changer. Si Dieu vous fait peur, c'est que vous avez un problème avec Dieu et votre péché. Quand tout ce grand spectacle où Dieu a manifesté sa gloire, Moïse dit au verset 20, chapitre 20, verset 20, ne vous effrayez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant Dieu, afin que vous ne péchiez pas. Vous avez compris? Dieu vous aime. Il n'aime pas le péché de l'homme. Il n'aime pas mon péché. Mais il m'aime. Mais tout est mis à l'épreuve. L'épreuve vient pour que je comprenne. Vous refusez de vous repentir et de faire la volonté de Dieu, vous aurez des épreuves. Jusqu'au point que vous vous rendiez compte que vous devez haïr votre péché. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Vous voyez? Alors Dieu va demander à ce brave homme, à Moïse, d'élever un autel de pierre. Verset 25. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Pas besoin d'une mosquée, d'un temple, d'une basilique, d'une cathédrale, une pierre. Et tu te mets à genoux devant. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, c'est le Christ la pierre qui conduisait le peuple au temps de Moïse. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Le Christ était là. Corinthiens 10, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, Shekinah, le Saint-Esprit. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voilà que, dans toute sa simplicité, Christ demande d'être le conducteur du peuple devant Moïse. Devant Moïse, parce que Moïse ne s'en sortira jamais avec un peuple qui aime son péché. Nous reprendrons ce texte dimanche prochain. Si quelqu'un veut servir le Seigneur ici, si quelqu'un un jour se sent appelé à le servir, il doit savoir qu'il ne conduira jamais une église. Parce que c'est un troupeau de pécheurs. Il ne conduira jamais une église. S'il y arrive, c'est qu'il y a d'autres raisons. Mais il ne conduira jamais une église. C'est le rocher, c'est le Christ qui conduit l'église. Le pasteur ne peut pas croire et se mettre dans la tête qu'il veut conduire une église. Il servira l'église. Moïse a été brisé. Il n'a pas su conduire son peuple. C'est le Christ qui voulait conduire son peuple. C'est le Christ qui veut conduire son Église. Parce que seul lui est Dieu. Seul lui peut montrer aux pécheurs ce qu'il doit changer dans sa vie. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'épouvante face à Christ? Peut-être qu'un jour ça arrivera. Est-ce que des chrétiens peuvent savoir aujourd'hui si le Christ les aime? Oui. En méditant la parole de Dieu, oui. Est-ce que le chrétien veut savoir ce que Dieu n'aime pas? Oui, le péché. Le chrétien veut savoir que le Christ l'aime, mais pas le péché. Alors, l'histoire du peuple hébreu ressemble étrangement à la nôtre. Nous prolongerons cela le dimanche prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.